grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h.
Quant à nous, on va se faire du bien, tiens. Bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de se réveiller, ceux qui déjà voudraient retourner se coucher. Le biberon ou le petit déjeuner vient tout juste d'être donné, peut-être un peu plus tard ce matin quand même, hein, c'est férié. Il est 10h, pas d'école aujourd'hui, on peut traîner un peu, à peine, retrouver la chaussette du petit dernier, retirer la tablette des mains de l'aîné. Ça y est, on va pouvoir aller se doucher, on a de la chance quand même, hein, avec ces jours fériés, on a toute la journée. Alors, eh ben, vivement demain, hein, vivement l'école, ouais, c'est bien aussi hein, quand ils vont à l'école. Ouais, c'est super quand ils peuvent y aller sans qu'on ait à se demander si l'école est équipée d'une rampe, si l'auxiliaire sera la même à la rentrée, si le bruit, les microbes, le rythme, il va pouvoir supporter, si dans la cour de récré ça va bien se passer, si dans la rue on va pas se moquer. On le sait, on le dit maintenant, être parent c'est réjouissant et c'est crevant, exténuant, horripilant aussi parfois. On le dit moins souvent, mais être un parent et un aidant c'est ça, non, c'est 10 fois ça, c'est 1000 fois ça, ça se compte pas. Quand on aime, on compte pas aider, c'est naturel. Cet enfant, malgré la maladie, le handicap ou l'accident, c'est la chair de notre chair, alors quand on souffre, on dit pas. Raser les murs, ne rien demander, ne pas se plaindre, surtout effacer les différences dans un monde qui n'adore pas la différence, les imparfaits ou les boiteux, les pas comme eux, se faire tout petit, mais à quel prix? Et si ce matin on arrêtait, si on se disait que oui, parfois on est fatigué, mais alors très très fatigué, et que ce serait pas mal si on voulait bien nous écouter, vous écouter. Cette émission, vous le savez, elle se fait avec vous, pour vous, grâce à vous. Alors appelez-nous, racontez-nous, racontez-vous au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur notre page Facebook.
France Inter. Grand bien vous fasse. Julia Foyce.
Et avec nous ce matin pour parler des parents aidants, Caroline Boudet et Rémi Bellet, parents de Paul, 9 ans, et de Louise, 4 ans, et fondateurs de l'association Extra Louise pour changer de regard sur la trisomie 21. Audrey Sauvageon, mère de Marine, 22 ans, aidante et auteure de ce témoignage, La tête haute, édité chez Flammarion. Serge Guérin, sociologue spécialiste de la question des aidants. Et Françoise Hélien, psychologue clinicienne, présidente et cofondatrice de JAD, association qui vient en aide aux jeunes aidants. Bonjour à tous les 4, à tous les 5, à tout le monde. Et bonjour à Baptiste Beaulieu.
Bonjour.
Comme tous les lundis, dans une vingtaine de minutes, vous nous ferez partager votre regard et de médecin et de citoyen engagé sur le monde qui nous entoure. On va dire chronique arc-en-ciel hein, aujourd'hui.
On va, voilà, comme ça. On va parler enfants et marche des fiertés.
Et d'ici là, quelque chose me dit que le sujet du jour devrait vous parler, Baptiste. Allez, je commence par vous, Caroline, parce qu'en réalité, c'est à vous que je dois l'idée de cette émission. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur et vous avez un certain sens de la formule. Puisqu'un jour, j'ai vu passer un de vos articles sur les réseaux sociaux où vous écriviez, je vais résumer, hein, je ne peux pas tout redonner in extenso, mais l'idée c'était, quand je câline ma fille Louise, je suis parent, quand je l'accompagne chez le kiné, chez l'orthophoniste, chez le médecin, je suis aidante. Dichotomie implacable, résumé impeccable de la situation. Quand est-ce que vous, vous l'avez pensé comme ça? Quand est-ce que vous avez pris conscience de cette double casquette?
Alors, j'ai pas pris conscience, on m'a fait prendre conscience puisqu'on était invité avec Rémi justement dans une conférence sur les aidants familiaux et je voyais même pas forcément ce que je venais faire là-dedans. Et puis on m'a posé la question, qu'est-ce que ça vous fait d'être une aidante familiale? Et pour moi, j'étais pas aidante familiale en fait. Et là, pour moi, j'étais une mère et je faisais tout ce que je faisais parce que c'était ma fille et que je devais m'en occuper. Point. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser. Je connaissais même pas le mot en fait, je crois, d'aidant familial. Et j'ai commencé à me pencher dessus. On a écouté ce qui s'est dit pendant cette conférence et je me suis dit, ah ben mince, pour être poli, ouais, en fait, je suis aidante. Et avant d'écrire ce texte, ça m'a tourné dans la tête. C'est-à-dire, je me suis dit, je suis aidante, je suis maman, je suis les deux à la fois, mais il y a des moments où je me sens plus aidante que maman. Et puis, il y a beaucoup de moments où j'aimerais bien qu'on me laisse être juste une maman.
Mais de même que votre fille, Louise, votre fille à tous les deux, elle est votre fille. Et puis, il se trouve qu'elle a
une trisomie 21.
Une trisomie 21. Voilà, c'est les deux à la fois. On en parlera évidemment dans le détail un peu plus longuement dans cette émission. Audrey Sauvageon, votre fils Marine avait 20 ans quand le 11 novembre 2016, il a été victime d'une agression sauvage à Lyon alors qu'il tentait de s'interposer entre un couple qui s'embrassait et un groupe qui les prenait à partie. Depuis, vous vous bagarrez auprès de lui, pour qu'il retrouve la vie des jeunes gens de son âge. Le mot aidant, il vous va bien? Il vous parle? Il vous plaît?
Il me plaît. Parce qu'on sent en accompagnement, on est à côté et on tente d'aider. En même temps, c'est un mot qui revêt énormément de choses et je trouve ça particulièrement violent et difficile pour des parents, même si c'est notre rôle d'occuper ce poste-là.
Parce que ça vous renvoie à votre situation spécifique ?
Déjà, ça me renvoie à ma situation et la notion d'aidante également. D'aidante n'était pas évidente tout de suite. Je l'ai réalisée assez récemment. Et puis, comme c'était dit très justement, des fois, j'aimerais juste être une maman, pas quelqu'un qui vient constamment le surveiller, l'aider, le briefer. Je me sens pas toujours à mon rôle là-dedans.
Serge Guérin, vous travaillez depuis longtemps sur la question des aidants. Leur donner un nom, est-ce que c'est le début d'une forme de reconnaissance de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent ?
Absolument. Vous savez, c'est Camus qui disait « mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde ». Ça commence souvent par trouver un terme. D'ailleurs, au début, on parlait beaucoup d'aidants naturels.
Oui.
Ce qui, en français, voulait dire, un, des femmes, deux, si c'est naturel, il n'y a pas de raison d'en parler, ni d'aider, ni par exemple de mettre de l'argent. Ouais. Et donc, le fait même de trouver un mot voulait dire qu'il y avait peut-être aussi une politique publique à mettre en phase. Et d'une certaine manière, ce que j'entends, c'est aussi qu'à certains moments, j'aimerais bien être juste la maman ou le papa, mais il faut qu'il y ait des structures qui fassent le job.
Qui permettent.
Voilà, exactement. Et donc, c'est aussi ça, de dire les aidants. C'est aussi dire, il y a besoin de plus de personnes dont le métier, le savoir-faire, la compétence et la distance permettent d'aider, suppléer, accompagner.
Alors, on estime à 11 millions le nombre d'aidants en France, soit une personne sur 6. Mais Serge Guérin, c'est quoi, très concrètement, un aidant, à la fois d'un point de vue juridique et d'un point de vue pratique ? À partir de quand on est aidant, en fait ?
Alors, bonne question, parce qu'en effet, il y a des gens, par exemple, qui confondent même aidant et bénévole. Donc, c'est pas tout à fait pareil.
Okay.
Je passe un coup de fil à grand-mère une fois dans le mois. Je suis pas un aidant, par exemple. C'est pas tout à fait
pareil. Je suis un peu sympa, mais sans plus, quoi.
Ouais, je suis un petit fils qui appelle une fois par mois sa grand-mère. C'est pas non plus,
ça m'aide pas les gens d'honneur tout de suite, quoi.
Voilà, c'est ça. Si en plus, oui, je vais être payé pour ça. D'ailleurs, parfois, c'est juste avant juste avant Noël. Donc, c'est pas non plus, voilà. Donc, il y a ça aussi. Mais c'est, en moyenne, on dit 20 heures, par semaine.
D'accord.
Proche de quelqu'un, ou s'il n'y avait pas cette aide, le premier cycle vital est engagé. Parce que finalement, c'est aussi la fragilité de la personne aidée qui est en jeu. Et donc, c'est là que ça joue. Et évidemment, c'est aussi bien les enfants que des parents, enfin, des gens très âgés, que, entre les deux d'ailleurs, avec les maladies chroniques, ça peut être à 40 ans, ainsi de suite. Mais l'idée, c'est ça, c'est que finalement, sans l'intervention de l'aidant, la vie même, le destin de l'autre, de celui qui est aidé.
C'est une situation de dépendance,
Une prise de disparaître. Quoi.
Qui rend cette position d'aidant de l'ordre de la nécessité absolue, quoi. Rémi Bellet, vous m'avez quasiment donné le titre de cette émission, comme quoi, en vrai, j'ai pas beaucoup travaillé, moi, aujourd'hui. C'est pas joli, joli. Vous avez signé, il y a quelques semaines, cet article dans le Huffington Post, « Je suis aidant et je suis épuisé ». Épuisé, principalement, par quoi ou par qui ?
Bah, épuisé par plein de choses. Déjà, il y a le handicap de ma fille au quotidien est un élément concrètement d'épuisement. Elle est, par exemple, en ce moment, elle est dans une phase où elle jette tout le temps, en permanence. Vous vivez comme si vous viviez dans des travaux toute la journée avec un bruit de marteau.
Ce qui est une phase que connaissent tous les enfants, sauf que Louise, elle a 4 ans, et donc au bout de 4 ans, on est déjà un petit peu fatigué.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que toutes les phases durent plus longtemps, et donc on vit dans un appartement parisien, donc pas très grand, et donc on a en permanence ça. Donc ça, c'est concrètement un élément qui est épuisant, et puis l'épuisement, il est du reste de l'environnement, tout ce qu'on peut trouver de petites réflexions qui sont absolument pas mal intentionnées, hein. C'est pas de la malveillance des gens, mais on a des questions autour de « t'as l'air fatigué », pourquoi tu viens pas ce soir boire un coup avec nous ? Tu peux pas rester ce soir pour une réunion avec les collègues, ce serait sympa.
Aller faire un petit effort, quoi.
Aller faire un effort, moi aussi je suis fatigué. Et en fait, tous ces éléments-là sont des éléments qui viennent vous rajouter une double peine, qui est celle de d'être vraiment fatigué et de vous sentir coupable de l'être, parce que vous participez pas aux éléments un peu non dits de la société, de l'organisation de nos sociétés, notamment dans le monde de l'entreprise.
À la vie sociale et à la vie professionnelle. Nous avons Sophie en ligne avec nous. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour. Alors d'abord, un très très grand merci, parce qu'en écoutant votre émission, je viens de m'apercevoir que j'étais une aidante, alors que moi je me considérais comme une maman d'une jeune fille de 25 ans qui souffre de bipolarité. Et ce que la personne avant moi disait, c'est qu'effectivement, Rémi Bellet, on est épuisé. On n'a plus envie de rien faire, on aide au quotidien, on aime au quotidien. Ma fille a fait des études supérieures, elle vit seule, en autonomie. Mais
bravo.
Sans mon aide derrière, sans le mur que je représente pour elle, alors le mur ou de la limite qu'elle ne peut pas dépasser dans certaines choses, mais aussi le mur de punching ball quand elle ne va pas bien pour se défouler verbalement sur moi. Il n'y a pas de physique, hein, rassurez-vous, mais de verbal. Et du coup, ce matin, en écoutant votre émission, je m'aperçois que plus qu'une maman, comme une maman, je suis aussi une aidante. Mmh. Et c'est vrai que ça pourrit la vie parce qu'on n'a plus envie de rien faire. On a envie de juste se reposer quand tout va à peu près bien pour prendre un petit peu des forces quand ça n'ira pas bien pour être là et pour accompagner.
Et on va parler aujourd'hui du rôle de l'entourage, effectivement, des associations, des groupes de parole. On va pouvoir en parler des relais de ses parents aidants. Merci infiniment, Sophie, d'être intervenue dès l'ouverture de cette émission. Françoise Hélien, tout le monde pense en premier lieu, évidemment, à l'enfant malade ou handicapé ou accidenté. Parfois, on a tendance à oublier ceux qui l'entourent. C'était l'idée de départ de votre association, Jade. Les aidants ont aussi besoin d'aide.
Alors, c'est en fait donner la parole à une population d'aidants complètement inconnue et invisible, que sont les jeunes aidants, qui ont entre 8 et 25 ans. Ils sont environ 500 000 en France, ce qui veut dire un jeune aidant par classe. C'est une population d'aidants qui est qui traverse très rarement l'imaginaire collectif, parce que quand on parle d'aidants, on imagine une femme ou un homme de 60 ans accompagnant son père ou sa mère vieillissant, comme si c'était quelque chose qui était normal et naturel. La question des jeunes aidants est une question cruciale, est une question d'un véritable enjeu de santé publique, puisque les jeunes aidants, tout comme les aidants adultes, ne se reconnaissent pas comme aidants. Ils ont l'impression que c'est normal d'aider leur père, leur mère, leur frère, leur sœur, leur grand-père, leur grand-mère. Mais ils sont à risque. Ils sont à risque de décrochage scolaire. Ils sont à risque d'isolement social et de grande négligence de soins. C'est une population sur laquelle il va falloir absolument, hormis le dispositif que j'ai créé avec Isabelle Brocard, qu'il y ait d'autres dispositifs répondant aux besoins de ces enfants.
Vous êtes parent d'un enfant, petit, ado, adulte, qui plus que les autres a besoin de vous, de votre présence et de votre aide, parce qu'il est malade, handicapé, qu'il a eu un accident, il nécessite des soins constants ou presque. Parlez-en avec nous, aidez-nous à comprendre ce que vous vivez au jour le jour. Appelez-nous au 01 45 24 7000 ou bien écrivez-nous sur notre page Facebook ou sur l'appli France Inter. Nicolas Bove est en veille sur les réseaux sociaux. Francesca Antonini et Camille Devar sont au standard. Alexia Rivière, attachée de production, est en régie. À la technique, Julien Dumont et Pierre-Yves Desrolin. David Leprince est à la réalisation. On est là, on ne bouge pas, on vous attend.
Brian Ferry, ce titre inoxydable de 1976, Let's Stick Together, serrons-nous les coudes ce matin plus que jamais.
Julia Foyce, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Audrey Sauvageon, vous racontez dans votre livre toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, vous et votre fils Marin. 2 semaines de coma avec un pronostic vital engagé, 6 semaines en réanimation. Il en sort avec de lourdes séquelles. Alors suivront 2 ans de rééducation. Où en est-il aujourd'hui? Comment va-t-il?
Il va relativement bien par rapport à ce qu'il devait vivre. Il ne devait pas survivre, puis à l'état végétatif. Il continue toujours sa rééducation. Ça fait maintenant 2 ans et demi. Que c'est son quotidien et qu'il doit se battre pour essayer de récupérer l'autonomie. Donc il y a des hauts, il y a des bas, mais il reste extrêmement courageux.
Et vous, quel est votre quotidien et comment vous, vous allez?
Alors mon quotidien est, comme beaucoup de parents, je pense, assez dense. J'ai Marin, j'ai 2 petites filles également, j'ai un travail, j'ai une présidence d'association, un livre actuellement, mais surtout, je dois être constamment là, en renfort, pour mes enfants et pour Marin, qui demande extrêmement de temps.
Caroline Boudet, le point de départ de vos histoires respectives, à toutes les deux, évidemment, est très différent. Néanmoins, est-ce que vous aussi, vous vous sentez éventuellement comme un écho avec Audrey Sauvageon sur la fatigue, sur le combat à mener tous les jours, sur le fait de devoir être sur tous les fronts et d'avoir je ne sais combien de casquettes? Votre quotidien à vous, c'est quoi, par exemple?
Alors, mon quotidien, donc, je suis à la fois donc maman de 2 enfants. Je travaille parce que j'ai absolument pas voulu arrêter de travailler, contrairement à ce qui...
On vous l'a proposé?
C'était suggéré. C'est-à-dire que nous, on a appris le handicap de Louise à sa naissance et on me l'a pas proposé. Mais si vous voulez, quand on commence la tournée de comment va être suivie notre fille, la rééducation, tout ça, donc à un moment, je me souviens de la litanie de rendez-vous qu'on nous annonce. Et moi, je dis, mais attendez, comment font les autres parents, en fait? Comment ça se passe? Et j'oublierai jamais cette réponse que m'a fait une directrice d'un établissement. Elle m'a dit, ben, souvent, un des deux parents s'arrête de travailler en me regardant.
Et l'un
moi.
Des deux parents, évidemment, voilà. Ça n'est bizarrement pas le papa.
Et donc ça m'a extrêmement pesée, parce que déjà, ma vie venait de basculer, parce que j'avais une enfant qui avait un handicap, c'était pas du tout prévu. Mais alors, si en plus, on m'a enlevé le côté travail, là, je me disais, c'est la fin de tout. Donc, j'ai continué à travailler, mais...
Mais comment vous faites, Rémi Bellet, comment vous faites l'un et l'autre pour... Il faut quoi? Il faut avoir un moral en acier? Il faut avoir un sens de l'organisation extrêmement aiguë? Comment vous faites?
C'est une excellente question. Je ne sais pas
Merci.
Comment je fais. Et en fait, on fait avec ce qu'on a, les moyens qu'on a. C'est-à-dire que, moi, je ne suis pas organisé, donc ce n'est pas vraiment moi qui organise les choses. Okay, c'est assez genré ce que je dis, mais c'est vrai que je ne suis pas trop.
Je ne l'ai pas dit. C'est vous qui l'avez dit.
Oui, mais c'est vrai. Après, j'ai des ressources émotionnelles, donc je tape beaucoup là-dessus pour...
Et vous êtes entourés l'un et l'autre, parce que j'imagine qu'il faut des relais, parce que seul, ça doit être très compliqué.
On a la chance d'avoir une famille qui, même s'ils ne sont pas forcément proches géographiquement, sont quand même présents, et on a des moments, pour le coup, je pense qu'on parlera du terme de répit tout à l'heure, voilà, on laisse les enfants chez les grands-parents, on les remercie là, s'ils nous écoutent, ça fait des petits moments à deux. Et puis après, on est au niveau de l'organisation, par exemple, nous avons un agenda en ligne pour la famille, avec tous les rendez-vous qu'on ajoute. Et malheureusement, donc, par moment, ça devient une vraie petite PME. Et puis, et puis par moment, on craque. Par moment, on se dispute. Et puis, par moment, ça va mieux. Et puis, voilà comment on fait.
Serge Guérin, quelles sont les principales difficultés rencontrées par les aidants, que ce soit les parents aidants, quel que soit le type d'aidant? Que remontent-ils? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils disent?
Ah, il y en a... Il y en a plein, bien sûr. On était là sur la question de associer vie perso et vie professionnelle. Je dirais, comme très souvent, c'est d'abord la question du regard et du regard des autres. Ouais. C'est-à-dire, il y a la question au tout début, culpabilité, pas culpabilité, ainsi de suite. Puis après, il y a le regard des autres, avec les gens parfois qui veulent très bien faire, mais qui vont avoir des mots qui sont hyper violents. Les gens qui n'ont pas du tout envie de bien faire, qui ont des regards extrêmement violents. Il y a la question, en effet, vous le disiez, il suffirait de s'arrêter. Enfin voilà, il y a des solutions. Et les solutions, c'est surtout, vous faites pas de bruit, vous nous dérangez pas trop, et vous permettez au système de continuer tranquillement de fonctionner. Finalement, c'est ça le truc à derrière. Et puis, cette question, je trouve que cette question de la vie professionnelle, à peu près la moitié des aidants sont en activité professionnelle. Mmh. Et évidemment que l'entreprise, elle n'est pas faite pour cela. mais n'empêche que.
Et qu'il faudrait l'adapter du coup.
Elle le doit, c'est ouais, finalement il n'y a pas de choix. Et puis surtout,
parce que 11 millions de personnes, c'est quand même une personne sur 6, donc ça commence à faire beaucoup quoi.
C'est ça. Donc il y a vous disiez à raison que dans une école, enfin dans une classe, il y a un enfant qui est concerné, mais donc on imagine dans une entreprise, il y a évidemment plein de salariés qui sont concernés. Et pire encore quand on n'est pas salarié. Quand on est travailleur non salarié, indépendant, ainsi de suite, comment tout ça s'organise? Et après, il y a une question, on parle beaucoup de charge mentale, hein, qui était sur les femmes, ainsi de suite. Bah, c'est la double charge mentale, d'une certaine manière. Et puis même une triple charge mentale, de se demander, mais jusqu'à quand j'en serai capable? Donc, il y a aussi cette espèce d'inquiétude, d'angoisse, et ainsi de suite. Voilà, donc, il y a tout ça qui se joue. Mais encore une fois, c'est aussi comment je trouve, aussi j'arrive à un moment donné à dire, hey, j'existe. Je suis une papa, je suis un papa, une maman, ainsi de suite. Et, j'ai le droit au jeu, j'ai le droit au répit, j'ai le droit à dire aussi, vous parliez de capacité émotionnelle, j'ai le droit aussi dans cette émotion de dire que j'ai de l'émotion. Et qu'à un moment donné, c'est trop dur, c'est difficile, ainsi de suite. J'ai besoin d'être aidé. Mais j'ai besoin, encore une fois, normalement, dans un monde idéal, c'est quelles sont les structures qui permettent que je garde mon rôle de mère ou de père, mais que ce rôle pour lequel je ne suis pas fait, il n'y a aucune raison, ou d'enfant, je ne suis pas fait pour telle ou telle chose, et comment donc il y a des structures qui me viennent en aide, qui font ce métier, on pourrait dire de care, hein, C-A-R-E, de soutien, d'accompagnement.
Et qui organise
tout cela.
Vous le disiez Serge Guérin, le monde autour n'aide pas toujours, être aidant c'est aussi être exposé à des réactions, disons, à minima maladroites.
Juliette ! Ça alors ? Ça fait un bail ! Je reviens pas, je pensais à toi l'autre jour.
Ah.
Oh, c'est drôle. Qu'est-ce que tu fais là? T'habites dans le coin?
Oui.
Moi aussi. Enfin, peut-être, je viens de visiter un appart. Je vais peut-être acheter un appart.
Ah oui?
Tu sais, l'autre jour, j'ai croisé Michel.
Ah.
Et toi, tu vois toujours Annick?
Non, on s'est perdu de vue.
Oh, c'est trop bête. Faudrait que j'organise un dîner d'anciens. Ce serait marrant de tous se retrouver. Tu sais que j'ai eu un petit bout.
Un petit bout de quoi?
Ben, un enfant.
Ah.
Et toi aussi, je crois.
Oui.
Oh, mais c'est génial. Et il a quel âge?
Il a 2 ans.
Comme Léo, exactement. Et il s'appelle comment?
Adam.
Oh, c'est joli. Mais ça va le tien, il est pas trop malade, parce que moi, Léo, avec la crèche, c'est un petit peu la galère.
Bah, en fait, s'il a un cancer.
Oh là là, c'est horrible. Qu'est-ce que tu me racontes? Oh, ma pauvre, mais comment tu fais? Mais comment vous en êtes aperçu? Il est né avec, c'est héréditaire.
Non.
Mais vous ont quand même donné une explication.
Non, il n'y en a pas.
Oui, forcément.
Bah non, tu sais, il n'y en a pas, ça peut arriver à tout le monde, en fait.
Un extrait du très très beau film de Valérie Donzelli, La guerre est déclarée. Vous décrivez souvent, Caroline Boudet, ces électrochocs quand vous vous heurtez à l'autre, aux autres, à ceux qui vont bien ou dont l'enfant va bien. Ce sont des phrases prononcées la plupart du temps avec sans doute la meilleure intention du monde. Mais à votre avis, pourquoi elles sortent ces phrases-là? Est-ce que c'est le handicap qui fait peur? Est-ce que c'est... Alors, on se prend les pieds dans le tapis.
Je me suis beaucoup posé la question parce que justement, je ne sais pas trop d'où elles sortent. D'abord, dans notre situation, il y avait les premiers mois quand on annonçait, donc avec la naissance de Louise, son handicap. J'avais vraiment au bout d'un moment poussé un coup de gueule parce que je n'en pouvais plus de la phrase « Comment ça se fait que vous ne l'avez pas su pendant la grossesse ?» Donc ça, c'est typique. C'est vraiment sur la trisomie 21, on se porte cette double peine.
Mais c'est d'une violence dingue, parce que ça veut dire cet enfant, il ne devrait pas être là.
C'était comme ça que je le vivais. C'est-à-dire que qu'est-ce que je pouvais répondre? Soit il y avait deux possibilités, soit je l'avais su, et dans ce cas, on avait choisi ou pas de la garder, ça ne regarde pas la personne. Soit, comme dans notre cas, on ne l'avait pas su, et c'est déjà un choc énorme qu'on s'est pris. Et ça sous-entend quelque part qu'il y a eu un raté de la médecine, de la science. Enfin, bon, et le raté, c'est mon enfant quand même. Donc c'est violent. Mais après, je pense que tout ça, j'y réfléchis, j'avais vraiment pas la réponse. Je comprenais pas pourquoi les gens avaient des réactions comme ça. Je pense que c'est, je sais pas, un mélange de malaise, de gêne. Et comme c'est très bien dit dans le film aussi, je pense qu'il y a aussi cette peur de eh ben, tu vois, il n'y a pas de raison, ça arrive à tout le monde. Et là, si on dit ça, ça peut m'arriver.
Bien sûr.
Là, c'est terrible.
Bien sûr. Alors, il y a eu la petite phrase de trop, vous l'évoquiez là à l'instant. Je crois que c'est un médecin qui vous dit c'est votre enfant malgré tout. Et ce malgré tout, il déclenche quoi chez vous?
C'était au bout de 4 mois, Louise avait 4 mois, donc les 4 premiers mois étaient assez terribles parce que c'était l'enchaînement vraiment de tous les examens et le monde médical n'est pas, à part Baptiste Beaulieu bien sûr, parce qu'il est dans le studio, n'est pas toujours des plus bienveillants avec les gens différents et c'est voilà, il y a eu un jour où j'emmenais Louise passer à une radio, quelque chose de totalement anodin, et j'ai entendu coup sur coup, c'est votre enfant malgré tout. Puis après, il y a la médecin qui est arrivée et qui a parlé d'elle en disant, bon là, je peux pas trop pour l'instant prononcer parce que c'est une trisomique, donc elle a parlé de ma fille en disant c'est. Enfin, et tout ça, ça fait un électrochoc dans ma tête, colère, enfin je n'en pouvais plus, quoi. C'était trop de violence, et surtout je me suis dit, est-ce que ça va durer comme ça toute la vie? Est-ce que moi je vais entendre ça toute la vie? Est-ce que elle va entendre ça toute sa vie?
Et vous décidez d'écrire un message public sur Facebook qui commence comme ça, c'était avec une photo de Louise. Elle, c'est ma fille, Louise, qui a 4 mois, 2 jambes, de bonnes grosses joues et un chromosome en plus. Le succès de ce message est hallucinant. Il est partagé dans le monde entier, aux États-Unis, en Corée, absolument partout. Et vous en tirez un livre, La vie réserve des surprises, on en parlera évidemment. Vous non plus, Audrey Sauvageon, vous a pas épargné grand-chose, hein, je crois. D'ailleurs, très vite dans votre livre, La tête haute, vous écrivez à quel point, d'emblée, vous vous êtes sentie toute seule. Est-ce que c'est une solitude affective ou est-ce que c'est une solitude matérielle? C'est les deux?
Non, je pense que c'est surtout affective. J'avais l'impression que... personne pouvait ressentir les choses comme je les ressentais, pas même le père de Marin. Et surtout, il fallait. J'avais décidé moi de tout mettre en œuvre pour essayer de sauver Marin, et je me sentais presque seule aussi dans cette démarche-là.
Et quand on que vous aviez le sentiment que les autres n'avaient pas la même optique, n'avaient pas le même objectif que vous.
Le père de Marin voulait pas qu'on parle. Voulait surtout pas qu'on lui passe de la musique, pas qu'on stimule, parce qu'il avait peur, on avait peur de mal faire. Et moi, je me suis dit, de toute façon, on nous dit qu'il va mourir. Donc, est-ce qu'on a encore quelque chose à perdre? Et donc, c'est batailler déjà contre ses propres sentiments, sa douleur, sa tristesse. Et puis, c'est batailler assez souvent, assez régulièrement contre tout le monde, finalement.
Et puis, parfois, contre le corps médical, qui, encore une fois, je dis pas ça parce que Baptiste est là, mais finalement, on les mettra pas tous dans le même sac, mais vous avez parfois, on vous dit des choses de façon très violente, sans prendre de gants, et qui vous plongent à la fois dans votre solitude, mais dans votre combativité, parce que c'est de là que vous l'avez tiré, cette combativité-là.
C'est ça. Les choses sont annoncées de manière extrêmement violente, avec beaucoup de certitude. Quand je vois que finalement les choses n'étaient pas si sûres, quand on parle du cerveau de Marin, nécrose, que ça c'est mort et que c'est fini, je pense qu'il faudrait prendre un petit peu de recul, prendre des pincettes aussi pour annoncer les choses, et puis pas être catégorique sur quelque chose dont on ignore encore pas mal de choses, comme le cerveau.
Parfois on est seul, même au sein de la cellule familiale, même au sein de son couple, vous l'évoquiez, Audrey Sauvageon. On écoute cet extrait du film de Nils Tavernier, De toutes nos forces.
Il s'est passé quelque chose avec Julien?
Non, rien, non. J'ai dû partir parce que je...
Comme d'habitude. Tu pouvais pas rester 5 minutes avec lui.
On a eu une grosse intervention.
Arrête avec tes pompiers, arrête! Tu commences à me gonfler. Tu devrais mieux t'occuper de ton fils avant de sauver le monde. Il a besoin d'un père, tu comprends ça? Moi je m'en occupe tous les jours, depuis 17 ans, matin, midi et soir. T'es où toi?
Justement, laisse-lui un peu d'air. Il ira peut-être mieux.
Françoise Hénien, l'irruption de la maladie, du handicap dans une famille ébranle en réalité toute la famille, ébranle le couple aussi. Tout l'enjeu consiste à ce moment-là à retrouver des équilibres, à retrouver une place pour chacun.
Oui, donc là vous faites référence à mon autre casquette que j'ai pas déclinée. Hein. Je suis secrétaire générale de la Société française francophone de psycho-oncologie, et donc la question que vous vous posez est que bien évidemment ça va venir remettre en question les relations dans le couple. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que c'est l'histoire du couple avant qui va nous donner des indicateurs sur comment le couple va traverser cette ou ces épreuves. Je souhaiterais dire quelque chose dans la suite de ce que disait Audrey, c'est que pour ces jeunes aidants qui nous préoccupent depuis maintenant plus de 7 ans au sein de l'Association nationale Jeunes aidants ensemble, la discrimination fait loi également. Ce sont des enfants qui ne parlent pas de leur situation à l'école. Les plus petits disent qu'ils ont peur d'être moqués. Les adolescents ont peur de la différence. Ils veulent absolument être appartenant au groupe des adolescents. Donc on gomme absolument. Et surtout, ce qui plane pour ces enfants, c'est que de reconnaître leur situation, c'était comme si on pointait une défaillance de la part des adultes, de la famille. Mmh. Et la crainte du placement familial est quelque chose qui muselle encore
donc
beaucoup trop les 500 000 jeunes aidants et leurs familles que nous accueillons, nous, depuis maintenant 6 ans au sein d'Atelier Cinéma Répit en résidence, oui. Et qui est un dispositif que nous sommes très heureux de déployer au national.
Ouais. Audrey Sauvageon, Rémi Bellet, Caroline Boudet, vos itinéraires qui vous amènent d'ailleurs jusqu'à ce studio ce matin, ces itinéraires, c'est un long chemin vers l'acceptation et certainement pas la résignation, on va pouvoir en parler. Mais ce chemin, finalement, c'est un chemin qu'on emprunte tous à des degrés très divers, sur des terrains divers. C'est aussi ce que vous racontez ce matin, Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Vous êtes médecin généraliste et c'est aussi pour cela que le 29 juin, vous serez de la marche des fiertés, Baptiste.
Oui, exactement comme vous le savez, Julia, juin, c'est le mois des fiertés LGBT. Et en tant que médecin, je suis souvent amené à recevoir des adolescents qui sont gays, lesbiennes, transgenres. Et je voulais donc parler de ce que c'est pour moi, en tant que soignant, la marche des fiertés. Alors, vous savez, une ville, c'est d'abord des rues. Et dans ces rues, parfois, il y a des gens qui marchent et parfois même, ils manifestent. Ils ont des banderoles avec ces slogans « Un papa, des roustons, une maman, des nichons ». Ou nettement moins poétique, la France a besoin d'enfants, pas d'homosexuels. Les enfants, justement. Dans nos villes, les rues, vous savez, sont bordées d'immeubles et derrière les vitres, il y a parfois des adolescents et des adolescentes. Ben, c'est compliqué, un adolescent. C'est tout en creux, en plaie, en bosse, souvent mal dans sa peau, fragile, une vraie éponge, avec parfois même des désirs un peu compliqués, parfois jugés honteux, et des pulsions aussi parfois morbides. Et je le sais bien parce que j'en reçois plein aux urgences et je me souviens d'avoir une nuit consolé un gamin qui voulait mourir parce qu'il aimait les garçons. Il m'avait dit cette phrase, il y avait une dame de la manif, elle disait aux journalistes de la télé que j'étais pédophile. Alors, pourquoi la marche des fiertés est importante? Ben, elle est importante parce qu'une fois par an, les enfants de nos villes peuvent regarder derrière leurs fenêtres et voir des personnes LGBT qui défilent et qui ont l'air heureux. La marche des fiertés, elle est importante pour nos ados, elle est là pour leur adresser des messages différents de « la France a besoin d'enfants, pas d'homosexuels ». Ces messages sont portés par une foule qui est différente, une foule qui dit ceci « n'aie pas peur, qui que tu sois, n'aie pas peur, tu n'es pas tout seul, ce que tu es ou qui tu aimes n'est pas grave, seule la mort est grave petit ». Un adolescent qui se découvre homosexuel ou trans a 8 fois plus de risques de passage à l'acte suicidaire qu'un autre adolescent. C'est la 2e cause de mortalité à cet âge-là. La 2e cause de famille brisée est près d'une tentative de suicide sur 2 est liée à la non-acceptation de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Et en France, un adolescent se suicide toutes les 48 à 72 heures à cause de son orientation sexuelle. Les adolescents mal dans leur peau, ils se moquent complètement de savoir ce qu'il en est du mariage, de l'adoption, de la PMA, de la GPA, c'est juste des mots. Mais ils voient, ils entendent, ils interprètent. Et est-ce que vous croyez que nous les avons aidés ces dernières années à s'accepter, à éprouver de l'estime pour ce qu'ils sont, à s'épanouir, à être heureux? Je veux dire, sur les réseaux sociaux ou les plateaux télé, il y a des choses terribles qui sont dites tous les jours sur l'homosexualité. Il y a ces adolescents, ces étudiants de l'Université catholique de Vendée qui vandalisent des stands d'associations en hurlant « homopholie, ça suffit ». Il y a ces photos de personnes LGBT qui sont frappées comme sous-couple de femmes ensanglantées, vous savez, dans le métro de Londres, la semaine dernière. Et ben, vous savez quoi? Ces images, elles sont vues. Ces paroles sont entendues par nos enfants. La marche des fiertés, elle est importante et j'irai défiler. Pas parce que je suis hétérosexuel, homosexuel, lesbienne, trans ou bisexuel. J'irai défiler car je suis médecin et que je n'oublierai jamais le gamin qui a pleuré toute une nuit dans mes bras. J'irai défiler pour nos ados, ceux qui sont derrière leurs fenêtres et veulent mourir, pour leur dire de ne pas avoir peur, ils ne sont pas seuls, pour leur dire que ce n'est pas grave d'aimer, que seule la mort est grave et que pour eux comme pour les autres, le bonheur est une chose possible.
Merci Baptiste Beaulieu. Je vous écoutais avec beaucoup d'attention et c'est marrant comme des sujets en apparence très différents, beaucoup de choses à se raconter. On a reçu un mail là, justement sur l'acceptation de la différence. Ça devrait vous parler, Rémi Bellet et Caroline Boudet, parce que on nous écrit « Quand mon fils trisomique était petit, on m'a parlé de l'annonce permanente du handicap. On vit avec ça tous les jours. Exemple, si je veux lui acheter un vêtement, on me demande quel âge il a. Il a 30 ans, il s'habille en 16 ans. C'est tout bête, mais ça renvoie toujours à cette différence et c'est toujours assez violent, c'est-à-dire qu'à la fois on accepte et qu'on s'habitue jamais. Autre message reçu sur Facebook, Aurélie et Sophie qui nous disent à quel point elles ont mis elles aussi des années avant de mettre le mot aidant sur ce qu'elles vivaient. Et pour vous, une question, Serge Guérin de Christine, est-ce qu'accompagner un hypochondriaque est considéré comme être un aidant? Alors ça, pour le coup, je n'ai pas la réponse. Donc je vous refile ce qu'on appelle... Et Caroline Boudet parle de la double peine. Alors c'est peut-être Caroline qui va nous répondre. Est-ce que c'est compliqué d'accompagner un mari hypochondriaque?
Oui, très.
Non, on parle des dents, vous le disiez, à partir de 20h. On rit, mais pardon Christine.
Non, c'est pas drôle.
On plaisante pas, on sait les soupapes qui,
non, parce que qui je se de manière autonome.
Voilà, c'est ça. Voilà.
En fait, c'est la question de l'autonomie.
Je suis pas vraiment
voilà,
se
gère.
Un peu.
C'est la question de l'autonomie. Serge Guérin est là et va vous répondre un peu plus sérieusement.
Oui, mais c'est bien aussi de garder le sourire et tout ça, mais bien sûr, c'est une question d'autonomie. Si, même en étant hypochondriaque, il s'en sort, quoi. Et donc, il y a besoin parfois de l'écouter, de le rassurer, mais ça va pas au-delà. Donc, alors que, dans d'autres cas, si vous n'êtes pas là, la personne risque tout simplement de ne pas avancer, de ne pas s'en sortir.
C'est le degré de la phobie, c'est le degré c'est l'ampleur du frein, c'est ça qui compte. Et le nombre d'heures aussi, vous disiez, on fixe arbitrairement un seuil à 20 heures par semaine.
On l'a bien vu, tout ça, il y a aussi la question normative, mais qui est normale. On vit avec des normes, il y en a parfois trop, mais on en a aussi besoin. On a besoin tous de savoir qu'au feu rouge, on s'arrête et qu'au feu vert, on avance, parce que sinon, on ne peut plus vivre dans une société s'il n'y a pas un minimum de normes. Mais en même temps, il y en a plein qui se discutent. Il y a débat, c'est Georges Canguilhem qui disait, entre les normes et l'environnement, il y a toujours débat. C'est-à-dire, pourquoi il y a cette norme à tel moment et pourquoi pas à tel autre ? Donc on a aussi besoin. Et il y a aussi un autre élément, c'est que nous sommes dans des sociétés qui se sont faites la promesse de, grâce à la technique, donc entre autres grâce à la science et en considérant que la médecine est une science, ce qui peut se discuter, et que donc le cœur, l'émotion, tout ça doit être mis de côté. On sélectionne un médecin sur sa capacité à résoudre des équations en maths,
et on sait
pas sur son cœur, pas sur son âme.
Donc
tout ça s'ajoute.
Voilà.
Et donc on dit aux gens, c'est fragile. La maladie, d'une certaine manière, c'est un échec. Le handicap, c'est un échec. Or, on est dans des sociétés qui ne veulent que, pour reprendre une formule à la mode du président de la République, des premiers de cordée. Donc du coup, si on estime que tous les autres, c'est un peu compliqué, c'est un peu embêtant, on en est là. Si on se dit, on est tous partis d'une société avec des cordes.
Bien sûr. Vous êtes sur France Inter et dans Grand Bien vous fasse, vous êtes parent, vous êtes aidant et vous êtes fatigué à la suite d'un accident, d'une maladie, d'un handicap. Votre vie a basculé dans une sorte de réalité parallèle qui pourrait être la nôtre, qui devrait l'être. Si tant est que le vivre ensemble veuille encore dire quelque chose pour nous, ça veut dire quelque chose. Alors appelez-nous au 01 45 24 7000. Rejoignez-nous sur l'appli France Inter ou sur notre page Facebook. Faites-nous partager vos questions, vos réflexions, parce qu'à plusieurs on avance mieux, parce qu'ensemble on se comprend mieux, parce que de tout cela, autant faire quelque chose. Mais ça n'est pas de moi, c'est de Jean-Louis Murat.
Au fil de l'eau, le rameau va bientôt voir Gibraltar. Au bord du ruisseau, libellule vient reprendre son carnage. Autant en faire quelque chose.
Voilà le dernier titre, extrait du tout nouvel album de Jean-Louis Murat, Innamorato, tout spécialement choisi pour vous par Muriel Pérez, qui signe comme tous les matins notre programmation musicale. Vous êtes sur France Inter et ce matin, dans Grand Bien vous fasse, on se penche sur la question de parents aidants, en compagnie du sociologue Serge Guérin, de Françoise Hélien, psychologue clinicienne fondatrice de l'association JADE, J-A-D-E, Caroline Boudet et Rémi Bellec, coparents de l'association Extra Louise, pour le coup, et d'Audrey Sauvageant, fondatrice de l'association La Tête Haute.
Ça va la princesse, on ne te dérange pas trop?
Ah non, tu vois, je m'occupe de ma sœur handicapée.
Grand bien vous fasse.
On se débarrasse pas des gens juste parce qu'on en a marre.
Tu cherches quelque chose pour son avenir. Elle a besoin d'avoir une vie sociale.
Une vie sociale dans un centre? N'importe quoi.
Sur France Inter.
Françoise Hélien, je viens de citer trois associations, dont la vôtre. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, sur la question des aidants, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient parents, il faut d'abord et avant tout compter sur nos propres forces et sur la société civile?
Je modérerai juste un peu vos propos. Oui, il faut d'abord compter sur des dynamiques et des désirs individuels, bien sûr, mais c'est de tout temps, toujours comme ça, que tous les messages ont été portés jusqu'aux puissances publiques. Pour ce qui est de l'Association nationale Jeunes aidants ensemble, c'était pour nous incontournable, puisqu'en fait, cette question de la situation des jeunes aidants s'est invitée dans ma clinique, puisque moi, je travaille au domicile auprès de gens atteints de pathologies graves ou chroniques. Et bien évidemment, sans moi et ma rencontre avec Isabelle Brocard, nous sommes la seule association portant la voix des jeunes aidants.
C'est quelque chose qui a été... Alors qu'il y a un enfant par classe, c'est...
Parce que ça a été compliqué déjà de regarder le parcours de Caroline ou d'Audrey. C'est très compliqué déjà quand on est parent d'être mère et aidant. Donc imaginez quand on est ado ou quand on a 8 ans de se dire je suis l'enfant de ou je suis le frère de mais je suis aussi aidant. C'est pas quelque chose de très facile et évident et les adultes et notre société ne les invitent pas tellement à s'exprimer ces enfants. Parce qu'en fait ça nous dérange un peu comme si ça venait pointer une défaillance de notre système social ou sanitaire.
Alors justement, ça rejoint un petit peu ce que nous écrit Nathalie, qui nous dit que donc son petit frère était trisomique, il est mort il y a 3 ans à 40 ans. Lorsque je disais que mon petit frère était mort et que je disais qu'il était trisomique, clairement on sentait chez les gens beaucoup beaucoup moins d'empathie. Pour eux, c'était moins grave, j'ai fini par ne plus en parler tellement j'étais écœurée. Toute notre vie, nous avons été regardés avec un mélange de compassion malsaine et de peur au cas où ce serait contagieux. Rémi Bellet, la création de votre association Extra Louise, c'était justement pour ça, pour changer le regard sur la trisomie, pour qu'on véhicule d'autres messages.
Exactement, la mission de cette association, enfin la petite mission qu'elle s'est signée, c'est de participer au changement du regard sur le handicap, en particulier la trisomie 21, parce que c'est un handicap génétique très fréquent dans notre société. Et en réalité, moi je me suis aperçu qu'à la naissance de Louise, que j'avais jamais fréquenté de personne avec trisomie 21. J'en avais vu au coin de la rue, peut-être un voisin, c'était plutôt caché. Et je me suis dit, dans la société dans laquelle on vit, une société de l'image, ce qui va faire la différence avant ses propres handicaps physiques, cognitifs qu'elle va éprouver, c'est d'abord le regard qu'on va poser sur elle et la place qu'on va lui faire dans la société. Et donc à notre niveau, on a profité de l'énorme élan qu'il y a eu après le message. Donc on parlait tout à l'heure, donc Caroline a écrit dans le monde, qui a été partagé dans le monde entier. Donc on a eu beaucoup de gens qui sont intéressés à nous. On se dit, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et on s'est dit, on fait un relais pour partager à notre niveau, ce que c'est que la réalité de vivre avec un enfant avec une trisomie 21, avec ses difficultés, avec ses forces aussi, et toutes les stéréotypies qui vont autour de là. En fait, un enfant avec une trisomie 21, un adulte, un adolescent avec une trisomie 21 peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on ne pense. Et donc, on essaye de participer à casser ces clichés. Qui en plus aide, je pense, à casser d'autres clichés d'une manière générale sur la différence et l'acceptation de la différence.
Audrey Sauvageant, l'idée ou l'envie d'une association vous est venue comment ?
L'objectif premier de l'association était de venir en aide à Marin. On partait de tellement loin qu'il me semblait que les propositions de rééducation qui lui étaient proposées étaient insuffisantes. Donc j'ai repéré un centre à l'étranger et le premier objectif c'était de réunir les fonds pour pouvoir l'envoyer en Suisse. Ensuite, l'association...
Et vous aussi, vous êtes passé par Facebook, en fait.
Alors, Facebook s'est créé, il y a eu un énorme élan de solidarité au lendemain de l'agression de Marin. Ça a été médiatisé. Et finalement, alors que c'était quelque chose qui me faisait extrêmement peur, ça a été un lieu de soutien, de solidarité, d'entraide, qui continue de nous porter encore aujourd'hui.
Et aujourd'hui, cette association, elle sert évidemment, continue de soutenir Marin, mais... Ça va bien au-delà, puisque vous pensez aux autres parents qui, comme vous, pourraient être frappés par le même genre d'accident. Qu'est-ce que vous leur proposez aux parents ?
Alors, aux parents et plus largement aux aidants, aux proches, on a créé un CAP La Tête Haute, qui est un coffret d'aide aux familles qu'on offre aux familles de personnes cérébro-lésées, donc suite à un trauma crânien, à un AVC. Il faut aller sur le site de l'association pour commander son CAP La Tête Haute. Ouais. Le but est de réinventer le lien et au-delà de ça, de limiter les séquelles sur le cerveau. Il y a des explications à livrer, une huile de massage, plein de choses qui sont bien expliquées.
Pour réapprendre à communiquer et pour stimuler son enfant ou la personne qui a eu cet accident et lui réapprendre à échanger avec vous par d'autres biais qu'avant, quoi.
Tout à fait. Et voilà. Encore une fois, en essayant de relancer la neuroplasticité, notamment par les odeurs, mais par plein d'autres choses également. Il y a énormément de choses à faire. Et quand on est perdu, on ne sait pas comment faire, on donne des indications.
Nous avons Alain en ligne avec nous. Bonjour Alain.
Oui, bonjour à tous.
Vous êtes aidant depuis que votre fille a eu un accident, c'était il y a 30 ans. Et aujourd'hui, vous êtes inquiet. Dites-nous pourquoi.
Je voulais d'abord intervenir parce que je m'occupe d'une association de familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés de Haute-Savoie. Mmh. Il y en a 52 en France et une fédération en ligne TC. Et je suis aussi également copilote de la grande cause des accidentés de la vie au Vienne-Rhône-Alpes avec Audrey, notamment ici présente. Donc bonjour Audrey.
Bonjour Alain.
Ce que je voulais surtout préciser, c'est que les dents et vos intervenants ont fait de très belles remarques et réflexions qui vont dans le sens de la compétence du vécu, à savoir qu'effectivement, lorsque vous tombez dans le monde du handicap aussi brutalement que le traumatisme crânien par exemple, il y a une onde de choc qui est une onde aussi sur toute la famille, et notamment la composante de la fratrie. Tout le rôle de l'aidant vient intervenir par là-dessus, et qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que c'est une catastrophe si on n'y fait pas très attention. Ce que je revendique, c'est qu'on a mis sur la scène publique, et peut-être bientôt sur la scène politique, qu'il faut reconnaître un vrai statut de l'aidant. Parce que les aidants, on est tous des aidants naturels. Moi, je suis, avant d'être un militant, un papa d'une fille de traumatisée crânienne. Mais les aidants, ils s'épuisent. Et naturellement, on peut pas le charger de toutes les composantes de l'accompagnement au long terme. Et les aidants se fatiguent et s'usent. Et si, au-delà et au travers d'un statut, effectivement, on éviterait une catastrophe supplémentaire qui amène à une triple peine, c'est-à-dire que les aidants, lui aussi, va vieillir, comme sa personne handicapée va vieillir. Et comment les relais vont se faire autour de tout ça? Si on ne réfléchit pas en amont, on va augmenter effectivement cette grande problématique.
Un grave problème de santé publique, comme l'évoquait Françoise Hélien tout à l'heure. Voilà. Merci infiniment Alain d'être intervenu. Serge Guérin, une loi pour favoriser la reconnaissance des proches aidants vient tout juste d'être promulguée. Est-ce que c'est bien mais peut mieux faire? Est-ce que ça y est, on est dans cette société de l'éthique de la sollicitude que vous défendez? Est-ce que ça raconte quoi de nous, la promulgation de cette loi?
Ce que ça raconte d'abord, c'est le temps que ça prend et que ça met pour que les choses se fassent. C'est la première chose. Deuxième chose, il faut rappeler, je vais donner juste un chiffre comme ça tout bête, 164 milliards d'euros, c'est ce que représente l'aide des aidants s'il fallait payer des gens pour le faire. Alors, il faut jamais payer, une maman va pas être payée, c'est pas ça le truc. Mais n'empêche que, les gens vont dire, ah mais non, je le fais naturellement, tout ça. Bien sûr. Mais n'empêche que, il y a plein de choses qu'elles font, ou qu'ils font, parce que personne d'autre n'est là pour le faire. On a 6 millions de chômeurs, on a une société très riche par ailleurs, et en même temps, il y a donc des gens qui se dévouent corps et âme, alors que d'autres pourraient venir le faire. Donc, il y a un élément aussi, c'est-à-dire qu'on peut dire, mais combien met l'État en face? Ah, c'est cher. Attendez, c'est cher? Mais 164 milliards d'euros, c'est les deux tiers de toutes les dépenses de santé.
Mais ce qui est fou, c'est que l'État est très en retard, là. Quand on pense aux élans de solidarité sur Facebook, ça veut dire que les gens, eux, y vont. Eux, ils sont solidaires, les anonymes, les lambda,
Vous êtes rattrapés par le réel. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous voulez faire? Très souvent, et heureusement, la société, elle attend pas que l'État bouge. Ça serait. Et heureusement, d'ailleurs, on fabrique, nous-mêmes tous, on fabrique de la société. Et on est fabriqué par la société. C'est un petit peu un ensemble des deux. Mais il y a une vision comme ça, un petit peu... on va tout attendre du haut. Évidemment que les gens savent que ça viendra pas du haut. Il y a plein de choses qui se font quand il y a eu du don de RTT au sein des entreprises. C'est d'abord parce que Christophe Germain, qui était un aidant, dans son entreprise, il y a d'autres salariés qui lui ont donné ces jours de RTT. Puis du coup, ça a pris comme ça.
Ça part de là. Alors là, en l'occurrence, cette loi accorde un congé spécifique et garantit un minimum de droits sociaux pour les aidants. Enfin, elle fait pas non plus la révolution, quoi.
Non, parce que après, c'est aussi des combats, c'est aussi de l'argent, c'est aussi tout ça. Mais faut se rendre compte. Je veux dire aussi une autre chose, c'est que il y a la personne qui est aidée et qui a donc énormément besoin, évidemment, des aidants. Mais les aidants, ils développent aussi une intelligence incroyable. C'est-à-dire que ces gens-là qui souvent vont être assez discrets dans l'entreprise et tout ça, parce qu'on n'a pas toujours envie en plus de tout raconter dans la boîte. Hein. Y compris parce que parfois ça met en fragilité. Voilà, si jamais le patron est au courant, peut-être qu'il va dire « Ah bah oui, je comprends pourquoi ce jour-là, justement, il n'est pas venu à telle ou telle réunion. » Mais en même temps, les gens qui font ça, ils développent un savoir-faire humain, mais aussi d'organisation. Enfin, c'est quand même des couteaux suisses, ils arrivent à faire 15 trucs à la fois. Donc aussi, comment on valorise plus le fait qu'il y a des personnes qui ont su développer une intelligence incroyable, une intelligence humaine, mais aussi une intelligence organisationnelle. Donc il y a tout ça qui est autour. La fragilité est une force.
Et justement, on va se passer le relais. Aujourd'hui, on aurait pu faire encore une heure sur les institutions, sur l'accueil des enfants à l'école. Et ça, je pense que ça vous parle, Rémi Bellet et Caroline Boudet, puisque Louise va rentrer à la maternelle à la rentrée. Simplement, en quelques mots, parce que l'émission touche à sa fin. Que dire aux parents qui nous écoutent et qui viennent d'apprendre le handicap de leur enfant, qui viennent d'apprendre que leur enfant a eu un accident, qui sont au tout début du parcours que vous avez fait, Audrey, Rémi, Caroline?
Moi, ce que je leur dirais, c'est de garder une petite flamme allumée tout au fond là de leur tristesse qui est la leur, en se disant que la vie s'arrête pas et que la vie qu'ils mènent est toujours la même et qu'elle sera peut-être même meilleure que celle qu'ils ont connue avant.
Caroline,
moi, je donnerais comme conseil de parler ou d'échanger, enfin de trouver votre manière, c'est-à-dire que ce soit aller voir un psy ou écrire des articles ou aller sur Facebook ou parler à la voisine ou le curé, enfin n'importe quoi, mais vraiment d'en parler et pas de rester tout seul avec ça. C'est comme ça qu'on avance.
Audrey?
Oui, je dirais également de s'ouvrir aux autres, alors qu'on a envie de se renfermer, essayer de parler au maximum de personnes et surtout ne pas hésiter à solliciter les gens et à leur demander, oui, parce que beaucoup de gens sont prêts pour aider finalement. Mmh.
Merci infiniment à vous tous d'être passés nous voir. Rémi Bellet, Caroline Boudet, www.extralouise.com, c'est le site de votre association pour changer le regard sur la trisomie 21. Caroline Boudet, je rappelle le titre de votre livre, récit de l'irruption de Louise dans votre vie, c'est La vie réserve des surprises chez Fayard. Audrey Sauvageon, La tête est haute, c'est le titre de votre livre à vous aux éditions Flammarion. Serge Guérin, votre dernier livre en solo, c'est Les Quincados chez Calman Lévy. Et puis, je signale cet ouvrage collectif auquel vous avez participé, le livre blanc des aidants en activité dans l'entreprise. Françoise Hélien, toutes les infos sur votre association, on les trouve sur www.ja-aidant-au-pluriel.com. Merci infiniment Baptiste Beaulieu. Les fidèles de Grand Bien vous fassent le savent, on vous retrouve dès lundi avec Ali Rebéi, votre premier roman. Les mille et une vies des urgences sera joué du 5 au 27 juillet dans le Festival Off d'Avignon, Théâtre des Béliers. Bref, bravo à vous, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain, même heure, toujours avec le même plaisir.